15h02 à Boulevard 102.1. Bon, mes collègues rient de moi encore une fois.
Jamais.
Je vous dis, c'est un été. C'est pas un été de boulevard, c'est un été de boulie.
C'est ça. Pas vrai, j'ai fait rire. Boulivard.
Bon, c'est parce que des fois, entre les micros, on mange des petites collations. Puis moi, j'étais habitué de travailler dans la station Sœur, week-end. On a un petit peu plus de temps. Parce que, tu sais, des fois, il y a une pause, puis après ça, il y a une chanson, puis il y a une... Puis là, j'ai vraiment mangé une noix de cachou au mauvais moment, c'est-à-dire 2 secondes avant d'ouvrir les micros.
Mauvais choix.
Mauvais choix. Très, très mauvais timing. Mais, bon, écoutez, faut se nourrir. C'est important de se nourrir dans la vie, mais on va en reparler, ça, justement, un peu plus tard, de l'importance de se nourrir. On avait plusieurs questions, et vous la connaissez parce que c'est une collaboratrice ici à Boulevard, Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue, qui est avec nous en studio. Allô, Élise?
Bon après-midi à tous.
Très bon après-midi à toi aussi. Merci de prendre le temps de venir répondre à nos questions. A priori, on a eu l'idée de communiquer avec toi parce que j'ai vu 2-3 choses assez intéressantes passer la semaine dernière. Oui. Non, c'est pas la semaine dernière, c'est au début de la semaine.
Oui.
C'est-tu mêlant, ce maudit congé-là? Au début de la semaine concernant la crise des opioïdes,
oui,
au Québec et au Canada en général. Mais avant ça, on avait d'autres questions aussi concernant l'urgence. Puis la première, c'était de quoi ça a l'air l'urgence le 1er juillet?
D'une journée d'été relativement banale, contrairement à nos 24 juin, 23, ben, la nuit du 23 au 24, le 24. Puis là, en fait, là, on a eu beaucoup de balles aussi dans les derniers jours avec leurs conséquences. C'est assez, je te dirais, tranquille. Ce qu'on voit, c'est les accidents de déménagement plus que d'autres choses. Puis souvent, c'est plus le 2 juillet, en fait, donc aujourd'hui.
Okay.
Écoute, la journée même, ils s'en rendent pas compte, ils sont sur l'adrénaline, puis le lendemain, ça fait encore mal.
Oui, ou il faut que tu finisses ton déménagement. Fait que tu te dis, je vais terminer et demain, j'irai consulter. Donc, c'est souvent ça. Mais j'ai un collègue albertain qui me disait que eux, leur 1er juillet, dans le Rock, le Rest of Canada, c'est leur 24 juin.
Ouais, c'est
leur journée de broche.
J'suis tellement un peu. On le sait pas, on le constate pas. Nous autres, ici, on le vit pas de cette manière-là. Nous, on voit les célébrations du fédéral, genre aller manger du gâteau sur la terrasse du frein, puis une coupe de concert un peu tranquillos. Puis on voit même habituellement la célébration à Ottawa qui hier a été annulée, puis c'est jamais le gros party. Mais d'un autre côté, si on regarde nos shows de la Saint-Jean qui passent à la TV, ça donne pas le goût non plus de faire la fête, là.
Ça, c'est peut-être un effet télé.
Oui, je pense que c'est
l'effet télé. Peut-être.
Pas, nous, on a 2 célébrations aussi à une semaine d'intervalle. Ouais. Fait que les gens probablement se disent, tu sais, je vais fêter, je vais aller voir le show de la Saint-Jean, puis peut-être moins celui du Canada. Mon collègue, il disait que c'est une des journées les plus achalandées à Edmonton. Ben, l'autre chose aussi qui est non négligeable, qui est très mignon, le 1er juillet, et ça, c'est comme ça en Amérique du Nord, donc c'est pas juste canadien, c'est aussi aux États-Unis. C'est la première journée de nos bébés docteurs, donc les médecins résidents, quand on commence notre programme de résidence en médecine de famille, chirurgie générale, chirurgie cardiaque, name it, c'est le 1er juillet. Fait
que
tous les bébés docteurs arrivent le 1er juillet, oui. Il y a même déjà eu des études qui avaient un taux de mortalité légèrement augmenté dans nos hôpitaux en Amérique du Nord parce que c'est des médecins résidents moins expérimentés. Donc, ils arrivent avec leur bonne volonté, leur livre et ils ont des grandes responsabilités. Moi, je me rappelle très bien par cœur ma nuit du 1er juillet que j'étais de garde au CHUL ici à Québec. Et oui, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un phénomène que pour les patients, pour le commun des mortels, on s'en fout complètement. Mais pour tout le monde en Amérique du Nord, là, moi, sur mes réseaux sociaux de docteur, c'est
effervescence.
Comme « Bienvenue, les nouveaux! » Puis on est comme « Yeah! » Oui, fait que ça, c'est le fun.
C'est quand même drôle, ça.
Fait que c'est ça, d'une pierre deux coups en même temps. Est-ce que sur la Saint-Jean, parce que tu en as parlé un peu de ça, est-ce que c'est moins pire qu'avant?
Oui. Moi, je trouve que oui.
Le fait qu'on a pris la décision avec le maire Labeaume il y a quelques années d'arrêter, d'accepter cette beuverie à ciel ouvert qui avait lieu en ville sur les plaines où, je me souviens d'avoir fini des soirées, Élise, là, où on ne voyait plus grand aller. C'était un tapis de canettes de bière écrasées à grandeur de la Grande Allée. Fait que je suis quand même content d'apprendre que c'est moins pire un peu aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs phénomènes. Je pense que ça, sûrement les décisions politiques de nos maires, gouvernements ont aidé. L'autre affaire, c'est que l'alcool est de moins en moins populaire chez la jeune.
Chez les jeunes, ouais.
Exactement.
La brosse est moins populaire, point. Hein?
Exactement. Fait que je pense que c'est aussi un phénomène de société. Moi, tu sais, puis je vous parlais des balles. Ben oui, on voit encore des jeunes qui ont malheureusement consommer trop vite trop d'alcool, mais je trouve que c'est moins pire qu'avant. T'sais, on en a toujours un ou deux qu'on surveille de près, etc., que les parents viennent chercher, puis là, c'est le walk of shame, puis tout ça, mais il me semble que je recule il y a 10-15 ans, on en avait beaucoup plus. Fait que oui,
fait qu'on peut se faire un high-five collectif.
High-five collectif. Bravo.
Fait que les mœurs changent aussi. On avait une autre question pour toi. Ça, je pense que c'était de ton côté, Antonine, hein, cette question-là.
C'est une question un peu différente, mais je me demandais, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui ne veut pas aller voir le médecin, qui ne veut pas aller à l'urgence quand c'est urgent ou qui ne veut juste pas consulter, même si on a vraiment l'impression qu'il y a des soucis de santé, comment on peut faire pour convaincre quelqu'un? Puis là, j'ai envie d'être un petit peu plus stigmatisante, là, mais souvent, c'est des messieurs d'un certain âge.
Oui.
Ils ont pas vu de médecin depuis 1973. Puis là, on leur dit, c'est parce que t'as vraiment une grosse tache sur le nez, genre, faudrait que tu y ailles, là, faire vérifier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les convaincre?
Souvent, c'est dans je te dirais, mon expérience, puis on veut pas être dans les préjugés, mais je te dirais que c'est un classique, là. Monsieur d'un certain âge qui a pas consulté depuis plusieurs années, puis clairement, il y a quelque chose qui se passe, puis là, conjointe, enfant, tout le monde est un peu inquiet. Souvent, ces messieurs-là, règle générale, c'est qu'ils ont archi peur de se faire annoncer une mauvaise nouvelle.
Ouais. C'est de la peur.
C'est de la peur. Ils sont anxieux, ils sont stressés, ils veulent pas se faire dire qu'ils ont le cancer.
Ils se doutent qu'il y a peut-être un petit quelque chose.
Exactement. Puis l'autre chose que j'entends fréquemment, c'est « je voulais pas déranger ». Ça, c'est assez facile à contre-argumenter. On dérange jamais. Vous avez le droit, vous avez payé des impôts ou pas, mais vous avez le droit de consommer.
Par contre, ça fait 5 ans qu'on nous dit « éviter l'hôpital le plus possible, parler à votre pharmacien, aller voir le moyen du bord ». Fait que tu sais, ceux qui, par défaut, sont pas enclins à y aller, vont encore moins, je trouve, avoir le goût d'y aller. Leur principe de déranger, oui, mais là, c'est pas urgent. Ils iront pas plus.
Mais tu sais, là, c'est ça que je suis urgentologue, fait que j'ai un biais. C'est pas d'aller à l'urgence. C'est, oui, c'est pas parfait, mais reste que le 811, le guichet d'accès première ligne, donne des rendez-vous non urgents, même pour des patients orphelins, un peu plus qu'avant. Est-ce que c'est parfait? Non. Il y a de l'accès quand même un peu. C'est sûr que un des phénomènes que je vois beaucoup, c'est que les gens attendent tellement longtemps que là, c'est justement samedi, le 3 juillet à 8 heures le soir que là, on règle ça. Mais là, ça se peut que vous n'ayez pas de rendez-vous électif ce soir-là, par contre. Puis là, c'est sûr que si vous venez à l'urgence, puis moi, souvent, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que je ne peux même pas donner le meilleur des services parce que je ne fais pas de suivi, parce que j'ai un plateau technique qui n'est pas disponible. Mais même si vous venez un samedi, 3 juillet à 8 heures, on va vous prendre en charge. L'autre chose qui aide, c'est vraiment d'essayer de comprendre de pourquoi, tu sais, la peur en dessous, là, d'aller, tu sais, inquiète-toi pas, ça va bien aller, inquiète-toi pas, tu sais, ça veut pas dire que, oui, je suis inquiète, mais ça veut pas dire que c'est quoi de grave. Puis au pire, tu vas te faire dire que tout va bien, puis tu es en parfaite santé. Fait que c'est essayer d'aller gérer cette peur-là sous-jacente, souvent, qui va rentabiliser. Puis pour de vrai, le 8-1-1, oui, des fois, c'est long à attendre la ligne, mais ils sont vraiment bonnes pour justement rassurer puis essayer de convaincre, bien, pas essayer de convaincre tranquillement puis d'aller travailler cette peur-là. Moi, je trouve que c'est deux trucs qui aident.
L'autre question, c'est parce que moi, ce matin, quand j'ai vu les images de ça et cette nouvelle-là, on a suivi quand même pas mal là, les tremblements de terre du côté du Venezuela. On est rendu à 2000 morts, une des dizaines de milliers de personnes qui sont encore disparues. Puis, tu sais, on sait là, qu'avec le temps, les disparus vont devenir des décès parce qu'on ne sera pas capable de leur venir en aide ou encore il est déjà trop tard. Ils ont réussi à aller chercher un survivant de 43 ans qui a survécu 8 jours dans les décombres. Dans quel univers ça se peut? Puis, tu sais, on peut aller jusqu'où, justement, avec une survie dans un contexte comme celui-là?
Excellente question. Premièrement, il y a plusieurs facteurs. L'environnement. S'il fait pas trop chaud, mettons, ça s'est écroulé, mais il y a une petite poche où il y a quand même un petit peu de place pour bouger. Il est
pas prisonnier.
Parce que lui,
ça semble être un stationnement souterrain, de ce qu'on comprend.
C'est ce que j'ai lu dans l'article, effectivement. Donc, déjà là, s'il n'est pas, mettons, la jambe écrasée ou des choses comme ça qui fait qu'il y aurait une blessure qui serait clairement dangereuse pour sa vie, c'est des facteurs favorisants. Après ça, biologie 101, groupe, si vous vous en rappelez, combien de jours on peut vivre sans eau?
Pas longtemps. Sans eau, ça peut pas être même plus que 48 heures.
C'est proche.
3 jours.
Exact. 3 à 5 jours.
3 à 5 jours sans boire.
Comme dirait Zoolander, l'hydratation est l'essence de la beauté et aussi de la vie. Oui. Donc, c'est 3 à 5 jours, mais sans manger. Mettons que vous avez accès à de l'eau, mais vous ne mangez pas.
Moi, j'avais entendu 3 semaines.
1 à 3 mois.
Hein?
Ouais.
Tu peux 1 à 3 mois, pas de bouffe, avec juste de l'eau?
Oui, parce que c'est là où la biologie embarque. C'est que vous allez vous autodigérer, littéralement.
Ah, super!
Oui, et particulièrement si vous avez un peu de tissu adipeux, en fait, ben, c'est un facteur de protection parce que, grosso modo, c'est que vos cellules vont se mettre à digérer votre graisse, puis après ça, ils vont digérer votre muscle, puis vous allez vous autodigérer, ce qui est un peu bizarre quand on y pense. Mais l'hydratation en soi, l'eau est essentielle à la vie. Donc, 3-5 jours, mais l'absence de nourriture, produire de l'énergie, votre corps est capable de faire ça vraiment très longtemps. Et pour répondre à la question, parce que j'allais chercher le survivant, c'est qu'ils ont fini en fouillant les décombres d'entendre la personne, puis ils ont été capables d'y envoyer de l'eau. Fait qu'ils buvaient. Ah. Et ils ne mangeaient pas. Fait que c'est probablement comme ça qu'ils ont réussi à survivre plusieurs jours. C'est qu'ils ont réussi à y envoyer dans un tuyau, je ne sais pas trop, de l'eau pour qu'ils s'hydratent. C'est la seule façon explicable et probablement qu'ils n'étaient pas blessés gravement parce que c'est l'autre chose. Si vous avez une fracture ouverte, ben, même si on vous envoie de l'eau, 8 jours, c'est un peu trop long. Probablement qu'ils étaient. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils devaient être en bonne santé, pas prendre des médicaments, etc., etc. Fait que,
il n'y avait pas d'enjeu, c'est ça, parce que quelqu'un qui est diabétique, par exemple, dans une situation comme celle-là, malheureusement, c'est ça ne pardonnera pas non plus. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans l'équipe ici, c'est moi qui ai le plus haut taux de survie, les filles. Si on y va en termes de graisse adipeuse,
on n'embarquera pas là-dedans. Là.
C'est moi qui gagne ici. A priori, quand on a communiqué avec toi, je vous le rappelle, on est avec Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue, qui intervient souvent à l'antenne ici au 102.1. C'est que j'ai vu passer différentes informations concernant la crise des opioïdes. On entend parler de ça beaucoup dans les dernières années. C'est quelque chose qui n'existait pas, moi, j'ai l'impression, quand j'étais petit, ou du moins, on n'en entendait pas parler de cette problématique-là, voyons donc. Moi, j'ai découvert les enjeux liés à ça avec une super série qui s'appelle Dope Sick.
C'est-tu bon, ça, sur Disney Plus?
Avec Michael Keaton sur Disney Plus, qui raconte l'histoire d'un médecin qui se fait convaincre par une pharmaceutique de prescrire médicaments avec opioïdes et se rend compte que les effets sont instantanés. C'est des gens qui ont des maux de dos, des problèmes de hanches depuis des années et des années. Ça règle pratiquement les problèmes, sauf que rapidement, il se rend compte qu'il est obligé d'augmenter les doses tout le temps un peu, finit par en prendre lui-même et finit par devenir complètement accro. Il commence...
Tu sais que c'est basé sur une histoire vraie, hein? Une vraie poursuite, parce que la pharmaceutique avait carrément dit « Hey, c'est fantastique parce que c'est des antidouleurs qui ne créent pas la dépendance. » Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est prescrit quasiment à outrance, entre autres, dans des milieux où les gens travaillaient très physiquement. Fait qu'il y a des communautés qui ont été affectées du côté des États-Unis. C'est d'une tristesse, là.
Puis t'as raison de dire que c'était peut-être pas si présent quand tu étais plus jeune, parce qu'en fait, ce que vous racontez là, l'histoire de Dope Sick, la série, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que l'oxycontin, donc l'oxycodone à longue action, la compagnie pharmaceutique, c'est exactement ce que tu viens de dire.
C'est Purdue Pharma, je donne
exactement.
Moi, hein?
A minimisé l'impact de la dépendance. Puis une des hypothèses de la vague des opiacés, c'est que, entre autres, c'est quand ils ont commencé à avoir des problèmes puis qu'ils ont arrêté de produire la médication et les compagnies d'assurance ont arrêté d'assurer, les gens étaient tellement accros qu'ils se cherchaient donc de la drogue, puis c'est des opiacés. Donc l'héroïne, la morphine, l'oxycontin, c'est toute la même grande famille des opiacés. Puis là, bien évidemment, hein, le monde étant le monde, bien les malfaisants, les malfrats se sont mis à créer, en fait, le fentanyl, entre autres, qui est un médicament que j'utilise à l'urgence à toutes les semaines. Mm-hmm. Les anesthésistes en utilisent plusieurs fois par jour. C'est un opiacé, ça aussi, qui est très puissant. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que on appelle ça un opiacé de synthèse. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire pousser le pavot, là, contrairement à l'héroïne qui vient de la plante. Vous pouvez tout faire ça avec des produits chimiques puis un laboratoire clandestin, produire ça et vendre ça sur le marché noir. Fait qu'il y a eu vraiment cette courbe-là en même temps, là, fin des années, début des années 2010, 2012, 2015, où on a eu la crise de l'oxycontin aux États-Unis et l'arrivée du fentanyl sur le marché noir, qui est arrivé, entre autres, de l'Asie vers la Colombie-Britannique.
Fait que là, pour faire une image encore avec une autre série, ce que t'expliques, c'est Breaking Bad.
Exact.
C'est un peu ça. C'est vraiment des labos clandestins où on est en mesure de produire cette drogue-là qui fait des ravages. Là, j'ai vu qu'il y avait un recours collectif en ce moment. Les gens ont jusqu'au 31 juillet pour présenter leur cause, en fait, au retour à ce recours-là collectif. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-François Bourassa qui a décidé, lui, de devenir le visage de ce recours collectif-là. Un monsieur qui a fait une chute d'un toit en 2005 s'est vu, exactement comme l'histoire de Dope Sick, prescrire des opioïdes et il y a une dépendance qui est née de ça, malheureusement. Mais on parle de cette crise-là, puis on en a entendu beaucoup parler à cause de Donald Trump, tu sais, qui nous critiquait par rapport au fait que ça passait par le Canada, puis c'est de notre faute,
fallait
ça rentrait.
Fallait nommer un tsar du fentanyl.
Fallait absolument avoir un tsar, c'est ça, du fentanyl. Mais à quel point, est-ce qu'on a des chiffres sur cette crise-là? À quel point il y a des gens qui décède, puis à quel point c'est important de se renseigner sur cette petite trousse-là qui est disponible à la pharmacie, puis savoir comment l'utiliser. Ça se pourrait-tu que ça m'arrive en sortant du bureau, que je tombe face à face avec quelqu'un dans un char qui est en crise, tu sais?
J'avoue qu'ici, le secteur est moins propice. Ah, mais clairement, il y a des endroits dans la ville de Québec que la réponse, c'est oui. Et là, encore une fois, j'ai un petit quiz pour vous parce que une des choses, moi, qui me frappe comme humaine, citoyenne et aussi comme médecin, c'est les chiffres par rapport aux décès et le fait qu'on investisse probablement pas tant en prévention, etc., etc., versus d'autres secteurs de la santé. Puis là, c'est là où je vous pose des questions. En 2023, combien il y a eu de décès reliés aux opioïdes au Canada en milliers?
Et je sais tellement pas.
En milliers?
50 000?
Moins que ça. Okay, 7 000. Mais c'est quand même beaucoup.
7 000 au Canada.
Oui. Okay. Mais là, c'est parce que je veux vous le comparer par rapport au nombre de décès reliés aux accidents de la route. Parce que, tu sais, des publicités pour les accidents de la route, la prévention, beaucoup, c'est des millions et des millions de dollars. 1900. Hein? Fait que c'est trois fois moins, en fait, à peu près. Puis là, je suis comme, Colin, me semble que puis là, je regardais après ça, OK, certains cancers qu'on entend encore une fois, des pubs, de la publicité, de la prévention, etc. Cancer du sein, c'est 5 400 décès pour la même année. Cancer de la prostate, 4 700 décès. Donc, la crise des opiacés a tué plus de monde que le cancer du sein, le cancer de la prostate ou les accidents de la route. Et pourtant, quand on regarde dans les programmes de prévention gouvernementaux de santé, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose, entre guillemets, ce qui est une des choses, moi, qui m'attriste grandement.
Mais c'est-tu pourquoi?
C'est une population vulnérable qui est à risque, puis est-ce qu'on est plus dur à... Un stigmate ou est plus dur à rejoindre, ou on a lâché prise, je sais pas.
Je pense que la stigmatisation est importante, puis c'est là où le recours collectif, je pense aussi, permet de sensibiliser. Je le souhaite pas, mais malheureusement, si vous vous blessez, si vous vous cassez une jambe, là, je vous disais que j'utilisais du fentanyl puis des opiacés, c'est la médication contre la douleur qui existe pour vous soulager à l'urgence. Le problème, c'est que ça se peut que ça va vous créer une dépendance puis vous allez être accro après ça pour des années. Mais moi, dans ma boîte à outils à l'hôpital, j'ai pas d'autres options.
Ouais. Okay.
Fait que, premièrement, justement, je pense que la stigmatisation, il faut un peu la défaire. Puis dire,
arrêtez de penser que c'est juste des junkies.
C'est pas... Oui, malheureusement, il y a des junkies, puis mais ça peut être à n'importe qui que ça
d'accepter paraît. D'accepter aussi que des dépendances, c'est une maladie. C'est juste, on les traite comme des criminels, c'est des déchets de la société. Ben non, c'est du monde comme vous et moi qui peuvent, à un moment donné, avoir une bad luck dans leur vie, avoir commencé une médication, puis subir une dépendance.
Bien, exactement comme M. Bourassa, là, qui est présenté dans un super topo du côté de Radio-Canada. Ce gars-là travaillait sur la construction. On voit des photos de lui en 2005. Un grand garçon qui paraît bien, un gars qui est en pleine forme aussi physiquement. Clairement, travaille physiquement aussi, on peut le voir. Il y a des photos de lui à la plage avec ses enfants, quelqu'un qui est actif, qui est physique, qui est mobile. Tabarouette, il est tombé d'un toit. Ouais. Il est arrivé à un accident en 2005, il s'est fait prescrire ça, puis après ça, ben, l'autre côté de la pause, il est sombré dans l'enfer de la drogue, là, malheureusement.
Il est allé
là
se faire enlever les dents de sagesse. Il est reparti du cabinet de dentiste avec 30 caplets d'oxy. J'ai pogné ça comme... Tu sais, puis quand t'es en haut de 14 ans, là, tu vois rien passer, là. Je pogne ça dans le corridor. Comment ça se fait qu'il t'a donné 30 caplets d'oxy?
Ben, écoute...
J'ai enlevé, j'ai donné un petit pot de Tylenol.
Ben oui.
À un moment donné, là, c'est comme si il y a eu une époque où on donnait ça comme des bonbons. Là, puis je veux pas faire de clichés, mais c'est sûr que le documentaire est assez dur aussi sur comment le système pharmaceutique puis la relation avec les médecins. À un moment donné, on a poussé cette médication-là.
Ça, c'est une question aussi que j'ai, puis je veux pas que ça sonne complotiste, mon affaire. Là, mais tu sais, dans le fait qu'on fait pas tant de pubs puis tant de prévention, est-ce que ça se peut que les pharmas aussi jouent en ce sens-là puis font peut-être du lobby pour éviter qu'on leur mette des bâtons dans les roues, tu sais.
À notre niveau, au niveau des médecins terrain, zéro puis une barre. Non, moi, j'ai jamais vu de compagnie pharmaceutique, même quand c'était l'époque où l'oxycodone, tu sais, moi, je pratiquais, je n'ai jamais vu passer au Canada. C'est vraiment beaucoup plus strict qu'aux États-Unis. Ça, c'est une des choses. Là. Puis au Québec, c'est strict de chez strict à comparer partout ailleurs en Amérique du Nord puis en Europe. Fait que les médecins sont extrêmement réglementés pour ne pas avoir d'argent, de lobby de la part des compagnies. Après ça, à plus haut niveau, est-ce qu'il y en a? Eux le savent pas.
Okay.
Mais un autre bon point d'Antonine que je voulais souligner, c'est aussi le fait qu'il y a très peu d'études. Tu sais, quand tu dis la dépendance, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux drogues, quand Lynn, qu'on n'a pas beaucoup d'études scientifiques, il y a probablement plus d'études scientifiques sur le Viagra, Colbin, que sur la dépendance aux opiacés. Ce qui est un peu triste. Puis encore une fois, on veut pas être complotiste, mais c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire à vendre des pilules pour pouvoir avoir, ne plus avoir de problèmes érectiles, mm-hmm. versus, encore une fois, avec la stigmatisation. Puis, c'est pas drôle, là, les décès reliés aux opiacés, c'est ce qui fait diminuer l'espérance de vie en Amérique du Nord depuis 5 ans, parce que c'est des jeunes personnes qui décèdent. Puis, ce que je lisais en préparant la chronique, c'est que cette crise-là du fentanyl puis des opiacés, l'espérance de vie en moyenne des gens en décédaient, c'était 45 à 50 ans. Puis maintenant, c'est entre 30 et 35 ans. C'est des jeunes adultes qui en décèdent, puis on n'est pas capable de les sauver. C'est sûr que là, l'article disait, bien, ça s'améliore un peu, tant mieux. Effectivement, tant mieux. Au Québec, on est relativement protégé. C'est vraiment dans l'Ouest que ça se passe. La Colombie-Britannique, c'est environ 60 à 70 % des décès au Canada. N'en demeure pas moins que je suis contente qu'on en parle parce que c'est vraiment quelque chose de santé publique. Puis je pense qu'il faut justement enlever les stigmates, être conscient que si votre enfant arrive avec un pot de 30 oxycodone...
Ou même vous, là!
Ou même vous, c'est... Tu sais, moi, je fais vraiment plus attention. Puis... on se sent dépourvu comme docteur devant des gens qui ont des douleurs chroniques parce qu'on n'a tellement pas beaucoup à offrir.
On veut les soulager.
Ça, on veut les soulager, les gens. Là, on est là pour les aider. Fait que ça devient un peu frustrant. Mais malgré tout, ça s'améliore. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire du côté gouvernemental, du côté justement de sensibilisation, autant au niveau médical qu'au niveau des citoyens.
Hey, on a reçu une question par texto. Il y a eu des éclosions de rougeole récemment. Il y a quelqu'un qui nous demande...
On est à 7 cas dans le secteur de Portneuf. C'est 5 nouveaux qui ont été confirmés un peu plus tôt aujourd'hui.
Je travaille avec plusieurs personnes du secteur où il y a eu éclosion de rougeole. Est-ce qu'il faut agir d'une façon particulière pour se protéger, j'imagine? Là?
Oui, en fait, ça tombe bien que j'avais justement lu mes courriels de ma directrice d'hôpital parce qu'on avait reçu les avis ce matin. En fait, effectivement, il y a eu des nouvelles éclosions dans la région de Capitale-Nationale. Si vous avez été, vous pensez avoir été en contact, vous avez été dans... Parce qu'en fait, là, si vous allez sur le site là, de la santé publique, vous pouvez cliquer sur « Zone des éclosions ». Vous avez l'adresse là, à Pont-Rouge, le Super C à Portneuf. Vous avez vraiment toutes les adresses où il y a eu quelqu'un qui malheureusement avait la rougeole et aurait pu être vous contaminer. Bon, si vous êtes vacciné, pas de panique, on vous considère comme protégé. Si vous êtes inquiet à savoir est-ce que je suis vraiment vacciné, puis tout ça, vous pouvez appeler au 811, ils peuvent vérifier. Fait que ça, c'est la première des choses. Si vous êtes vacciné, la probabilité que vous allez attraper la rougeole est très, 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 très faible.
À moins que,
toujours la même affaire. Si vous êtes immunosupprimé, donc si vous prenez des médicaments, chimiothérapie, ça se peut que le vaccin soit moins efficace pour vous. Si vous avez vraiment été dans le lieu qui est sur la liste de la santé publique, c'est de rester à la maison tranquille. C'est d'éviter, puis attendre. Bien, je ne vous le souhaite pas, parce que les premiers jours, il n'y a rien à faire. C'est de voir est-ce que je vais développer une fièvre, des courbatures, la rougeole, les premiers symptômes, ça ressemble à une grippe, là, de la fièvre, le petit nez qui coule, j'ai mal partout. Les petits boutons, puis ça apparaît 2-3 jours après le début des symptômes. Fait que c'est de s'isoler. Puis comme je vous dis, vous pouvez appeler au 811. Puis si le 811, l'infirmière voit des choses, voit des choses en sens avec le questionnaire, a certaines interrogations, elle va vous mettre en contact avec la direction de la santé publique qui va pouvoir vous aider.
Toujours excessivement intéressant, très pertinent. On avait un sujet de départ, puis finalement, on est allé un peu
partout. Hein?
Ben oui, j'aime vraiment ça. Élise Berger-Pelletier, urgentologue, merci beaucoup pour ton temps.
Ça me fait plaisir.
Timing, tout était là. Elle avait lu les courriels de sa directrice en plus. Ouais. Tout était parfait. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps, encore une fois, aujourd'hui. On va quand même faire un petit tour dans la circule avant d'aller en publicité, Véro.
Je vous disais que c'était complexe. Il y a un incident qui s'ajoute à ça. En fait, c'est une panne. Si vous apprêtez à prendre la carrière en direction est, à l'est de la route Jean-Gauvin. La fin de l'accès qui provient de la route Jean-Gauvin est partiellement entravée par un véhicule en panne. On a eu un problème sur Robert Clich en direction nord. Congestion entre la rue Beaulieu et le pont Laporte. C'est un véhicule en panne. Ça s'est résorbé, l'accident comme tel, la panne, là. Mais actuellement, c'est encore complexe quand vous êtes sur la 73 pour accéder à ce secteur-là. Le coin des travaux sur la 20 en direction ouest, c'est très, très lent. Sur Capitale, le problème est en direction est, à partir de la bretelle de Henri IV et ça se résorbe à peu près à la hauteur de Laurentienne. Sinon, pour le reste, c'est au jaune un peu partout, fait qu'il y a beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui. Soyez patients, soyez prudents.
On est là, nous, de toute façon, pour vous accompagner jusqu'à 18h. Donc, même si c'est un petit peu plus long dans le trafic, de l'autre côté de la pause, le Top Corner avec Alex Laramé. Et on va faire le tour des actualités aussi avec Véronique Bergeron. Vous écoutez Le Retour de Boulevard au 102.1. Le Retour. Plusieurs textos au 971-1021, de belles réactions concernant le passage d'Élise en studio. C'est tout le temps hyper intéressant. On est quand même chanceux d'avoir des chroniqueurs des partenaires comme ça ouais. pour répondre à nos questions. Puis je suis quand même content qu'elle ait soulevé le point du fait qu'on en parle, mais on n'en parle pas tant que ça. En fait, la crise des opioïdes, c'est qu'on n'en parle pas de la bonne façon. Tout le monde entend ce mot, cette phrase-là, crise des opioïdes. Vous avez tous déjà entendu ça,
ouais.
mais personne ne sait concrètement ce que c'est.
Non, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a pris du cannabis, puis à un moment donné, a pris quelque chose de plus fort, puis cherchait tout le temps quelque chose de plus fort. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais la base de dépendance à des antidouleurs, puis tu sais, j'étais tellement contente que tu mentionnes la série Dopesick. Si vous n'avez pas regardé ça, si vous avez le cœur fait solide parce que c'est triste, c'est touchant. Puis c'est surtout que moi, quand j'ai terminé cette série-là qui est disponible sur Disney+, je me suis mis à consommer tout ce qu'il y avait d'articles d'actualité sur Purdue Pharma,
ouais.
sur cette famille-là, sur comment eux autres, il y avait une image sociale absolument impeccable. C'était des mécènes pour l'art, pour un tas de choses. Mais c'est...
Ils ont créé une crise.
Vraiment.
Puis, tu sais, des fois, on va trouver plusieurs facteurs à une crise. Dans ce cas-ci, je veux dire, c'est très difficile de ne pas voir une responsabilité quasi totale de ce qui s'est passé avec Purdue. Là. Puis il y a le documentaire et il y a le film,
la série
là, dont tu parles. C'est assez frappant. Puis moi, je veux revenir sur le stigmate, la stigmatisation des gens qui ont des dépendances parce que tantôt, Élise nous disait ça tue beaucoup plus de personnes que, par exemple, le cancer du sein. Mais tu sais, une madame qui a le cancer du sein puis qui fait un témoignage. Puis là, c'est comme le cancer du sein, il est tombé dessus. Ouais. On n'a jamais l'impression que c'est de sa faute là, à la madame.
C'est une Alors mauvaise
que,
loterie.
Ouais. C'est ça. Mmh. Alors que quelqu'un qui vit une situation de dépendance, ben on a tendance à penser que c'est
de sa faute. T'as raison. Puis j'en fais partie aussi. Là. C'est comme, ben, tu vois que tu es tout le temps à sa machine ou que tu as tout le temps besoin d'alcool. Allume à un moment donné, mais la dépendance,
c'est une maladie.
T'as pas conscience de ça.
Puis les gens qui font le pas d'aller chez le médecin, okay, qui se disent, wow, ça va plus, là. Ça ne va pas, et qui vont dans le système de santé, des fois, ils vont être très bien reçus. Moi, j'écoute Élise, puis je le sais qu'elle a de l'empathie puis qu'elle accueille tout le monde. Ils sont pas toujours tous comme ça.
Non,
j'ai un ami qui avait un problème de dépendance à un moment donné. Une personne qui avait une belle carrière et tout ça. Il s'est présenté chez le médecin, il s'est assis dans le cabinet du médecin, il a dit « J'ai besoin d'aide, je suis dépendant, je pensais que j'étais juste sur le party, mais là, je suis plus capable de m'arrêter. » Et il a été traité comme un déchet.
Ah, voyons!
Ils n'ont pas donné de service. Et ça me choque au plus haut point parce que c'est un problème de santé. Pourquoi on ne donnerait pas des soins comme on donnerait à quelqu'un qui se présente avec une jambe cassée?
Bien, tu vois, c'est exactement ça. Tu sais, l'ouverture puis l'empathie de Élise, exactement comme tu racontais, je l'ai ressenti énormément chez différents médecins. D'autres médecins que je sentais excessivement fermés, mais je me souviens d'avoir discuté à un moment donné avec un oncologue qui me disait « Quand un patient vient dans mon bureau puis qu'il faut que je le traite pour un cancer du poumon, puis que cette personne-là a fumé un paquet de cigarettes par jour toute sa vie, moi, ma job, c'est d'essayer de la sauver, cette personne-là, même si elle a fumé toute sa vie. » Puis cette crise-là est vraiment alarmante. Puis je suis content qu'on ait fait de la place dans notre émission aujourd'hui pour en parler, en plus avec quelqu'un qui est dans le système de santé, quelqu'un qui connaît ça, puis qui a pu nous exposer des faits puis des chiffres qui sont excessivement tangibles, parce que c'est ça. C'est comme tendance de dire « crise des opioïdes », mais j'ai l'impression qu'on va pas assez en profondeur pour comprendre davantage que ça peut vous arriver à vous aussi. Vous allez vous retrouver dans un cabinet chez le médecin, puis on va vous en prescrire. Puis tu sais, comme tu disais tout à l'heure, Antonine, des fois, on est à une mauvaise décision que tout bascule. Personne est nécessairement à l'abri de ça. Le but, c'est pas d'être alarmiste non plus, mais si vous le savez qu'il y a des problèmes de dépendance dans votre famille ou vous-même, vous en avez déjà eu, si un médecin vous prescrit ça, de poser la question « Est-ce que c'est des opioïdes? J'ai des antécédents. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? » Ouais, mais même si c'est à petite dose, ben, comme à ton fils, au lieu d'en donner 30, est-ce que tu peux m'en donner pour les 24 prochaines heures? Puis après ça, je peux-tu switcher au Advil ou au Tylenol, mettons, pour la douleur?
Exact.
Y a-tu moyen pour pas me mettre en danger? Parce que clairement, j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Ben, aussi, c'est ça. T'sais, soyez
aussi,
pas gênés d'en
d'avoir
parler.
D'avoir des suivis après. Parce que le contraire est vrai aussi. Là. Moi, j'ai eu toutes sortes d'enjeux de santé dans ma vie. C'est aussi, Nathan. Puis quand j'avais des douleurs et que je demandais une médication contre ma douleur, là, tout le monde essaie break. Maintenant, c'est comme un peu le contraire. Mm-hmm. C'est comme, ah, ben non, prendre des Tylenol. Non, parce que j'ai vraiment mal.
Ça marchera pas.
Il y en a tellement qui n'avaient pas vraiment mal, mais qui avaient juste besoin de la dose.
Mais là, on est comme traités comme nous aussi, des junkies.
Ben
des gens qui n'ont pas nécessairement de problème. Mais moi, je pense que si on avait un petit peu moins de stigmatisation autour de ça, qu'on le traitait comme un enjeu de santé, puis là, on en parle de plus en plus, c'est bien. Tu sais, tu disais, ça peut vous arriver. Peut-être que ça ne peut pas vous arriver à vous, mais peut-être que ça peut arriver à votre enfant, par exemple. Peut-être que ça peut arriver à votre chum, à votre blonde, à votre soeur, à votre
frère. Parents.
À vos parents. Ouais. Donc, pour vrai, là, ça touche tout le monde, cette histoire-là, puis de crise des opioïdes.
Les parents, je trouve que c'est une bonne chose de le dire puis de le nommer, parce que le nombre de fois où est-ce que les parents dans la vie, tu sais, des parents de nos parents à nous, mettons, là, dans nos âges, là, tu vas apprendre un mois ou deux mois ou un an après qu'il était malade parce que c'est un petit bobo puis je voulais pas te déranger avec ça, mais là, ça fait peut-être un an qu'il prend une médication qui est en train de lui ou elle le mettre à risque. Mm-hmm. Bref, parlons-en davantage juste pour être éclairé. Puis je les comprends, les médecins aussi, puis les spécialistes d'être sur le break parce que tu n'as pas envie d'être l'élément déclencheur, tabarouette, chez quelqu'un de... Tu sais, quelqu'un qui rentre à l'urgence, que tu vois pour la première fois, tu le sais pas, c'est quoi son background, lui, tu n'as aucune idée de est-ce que j'ai prescrit ça pour y enlever de la douleur maintenant, mais finalement installer un problème qui risque peut-être d'être permanent par la suite. Donc bref, sachez-le, il y a un recours collectif en ce moment concernant les opioïdes. Vous allez trouver ça assez facilement en faisant quelques recherches là, sur le web, mais c'est jusqu'au 31 juillet pour déposer votre dossier à vous. Ça se pourrait qu'on extensionne un peu. On n'a pas eu de confirmation encore au moment où on se parle, là, mais ça se pourrait qu'on repousse un peu la date du 31 juillet. C'est ce que je pouvais lire un peu plus tôt aujourd'hui, étant donné que c'est des dossiers qui sont quand même complexes à monter. Aussi, donc peut-être qu'on va donner un petit peu plus de temps. Puis Jean-François Bourassa, si ça vous parle, ce qu'on vous dit, ben tapez ce nom-là. Il a décidé, lui, d'être le visage de ce recours collectif-là, décidé de prêter son nom à cette cause-là en racontant son histoire aussi. On fait quand même un tour de l'actualité. Véro, parce que l'actualité prend pas de vacances, prend pas de congés, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à surveiller.
Oui, il y a eu un point de presse plus tôt aujourd'hui. La première ministre, Christine Fréchette, a confirmé ce que tout le monde savait. Elle va se présenter officiellement dans Trois-Rivières pour la prochaine campagne électorale. Puis on dit souvent que c'est un secret de Polichinelle. Savez-vous, ça vient de où, secret de Polichinelle?
Non.
Parce que secret de Polichinelle, ça veut dire tout le monde était au courant, personne ne le confirmait, mais c'était su. Ça vient de la Commedia dell'arte. C'était le personnage de Pulcinella, Polichinelle. C'est un bouffon qui était bavard, qui, pour divertir les gens, révélait tout le temps des secrets, mais dont tout le monde est au courant. Mais lui, il pensait que personne ne le savait. Fait que ça vient de là.
C'est un peu comme des vérités de la palisse.
Oui, c'est quoi ça?
Une vérité de la palisse, c'est quelque chose que quelqu'un déclare, mais qu'on le savait tout déjà. C'est comme Capitaine Obvious, un peu. Et ça vient. Il me semble que la palisse, c'est un personnage aussi de théâtre qui est un policier
c'est
ou un enquêteur.
C'est fou la quantité d'expression qu'on a puis qu'on n'a aucune espèce d'idée de l'origine.
Absolument.
Donc, dans le cas de Mme Fréchette, c'était Jean Boulet qui était député de cette circonscription-là, avait annoncé qu'il ne se représentait pas il y a quelques semaines à peine la prochaine élection. Fait que de ce moment-là, quand il a visé la première ministre, ben ça a été 1+1, ça fait 2. C'est la région dans laquelle elle a grandi, qu'elle a passé sa jeunesse, le début de son âge adulte, de ce qu'on comprend, elle a rencontré son conjoint là, ses parents vivent encore là. Fait qu'elle était bien, bien fière de nous parler de Trois-Rivières un petit peu plus tôt aujourd'hui. Là, restera à voir qui on va présenter dans Saguenay. Parce que là, actuellement, je crois que celui qui se présente et qui est en avance, c'est un député, un candidat qui a déjà été pour le PQ auparavant, qui a été au fédéral aussi, quelqu'un qui demeure dans la circonscription de Saguenay. Fait que déjà, c'est quoi, à l'intérieur?
À l'intérieur.
De mémoire?
Ou... comme on le surnommait au PQ et au Bloc, le King.
Ah ouais. Hein?
C'est tout un personnage, je vous l'inviterai.
Fait que tu es en train de me dire que la personne qui va se présenter contre lui, ça peut être tough.
C'est un adversaire redoutable. C'est quelqu'un de très coloré et c'est ce qu'on appelle en politique un goon. Donc quelqu'un qui rentre dans le tas. Là.
OK.
Ouais. Il est très divertissant. Moi, j'ai bien connu Alain. Je travaillais avec lui à l'époque du PQ. Et c'était mon collègue aussi à Zone Info à RDI. Tout un personnage. C'est pour ça que le PQ aujourd'hui spin que Christine Fréchette a eu peur.
Elle s'est sauvée.
Uh-huh. Je pense pas, là. Honnêtement, que c'est ça l'explication, mais je comprends à l'intérieur fin politicien de profiter de l'occasion pour mousser sa campagne.
Elle s'est pas sauvée. C'est pas ça. Ils ont rien compris, le PQ. C'est juste parce qu'elle connaît la moitié de la ville de Trois-Rivières et elle voulait tous les présenter aujourd'hui.
Ils se sont rencontrés à la roulette.
Tout le monde était là.
C'est ça qu'elle voulait faire aujourd'hui.
Ici, on a plus ou moins d'images d'arrestations ou d'éléments du genre. T'sais, souvent, ça va être des journalistes qui se retrouvent sur place ou encore, t'sais, ça va être de la loc ou ça va être des médias sociaux, alors que dans d'autres pays, c'est très documenté et par la suite médiatisé. C'est CTV qui a mis la main sur une vidéo montrant... Ils disent l'arrestation de Al Boivin, mais c'est plus le moment où il a été amené au poste. Al Boivin, on s'en est parlé au courant des derniers jours. C'était l'individu le plus recherché au pays. C'est un fugitif depuis quelque temps déjà. C'est un gars contre qui il y avait des accusations assez importantes de déposer contre lui, entre autres pour trafic de stupéfiants, appartenance à une organisation criminelle, ce genre d'éléments-là. Puis c'est l'Espagne qui a... au bulletin de nouvelles, montrer justement un fugitif qui a été arrêté. On ne donne pas son identité, vous comprendrez, mais 1 + 1, ça fait 2. Puis les journalistes de CTV sont allés poser ces questions. Puis on savait qu'il avait été arrêté dans le secteur de Marbella, donc dans la région de Malaga. On savait juste pas dans quel contexte. Puis c'est dans notre tête, là, un fugitif, là, sa vie d'un appartement miteux à l'autre, puis il y a des gens qui cachent dans des sous-sols. Donc le ministère espagnol de l'Intérieur, au moment où ils ont sorti la vidéo, disait « Il se cachait dans une luxueuse demeure d'un quartier résidentiel huppé de Marbella et sachant qu'il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du Canada, il quittait rarement son domicile. » Fait qu'il menait la grosse vie dans un appartement de luxe.
Vita.
La Dolce Vita. Donc, lui, qui était recherché en vertu d'un mandat d'arrestation pan-canadien. Je vous parlais des accusations de trafic de stupéfiants, trafic de substances, complot de trafic, possession en vue d'en faire le trafic pour aussi des événements qui sont survenus autant à Saguenay, Québec, Brossard, Abbotsford. À un moment donné, on pensait qu'il était en Colombie-Britannique, qu'il y avait un 100 000 $, en fait, jusqu'à un 100 000 $ qui était promis pour toute information qui allait permettre une arrestation. Mais il y avait aussi sa conjointe qui était recherchée. Et c'est Radio-Canada, un petit peu plus tôt cette semaine, qui a appris qu'elle, elle est toujours une fugitif. Fait qu'on sait pas s'il était avec lui en Espagne, si c'est elle qui l'a vendu. On sait pas non plus cette information-là. T'sais, on a regardé beaucoup de séries où on a tellement romancé le côté criminel dans les dernières années qu'on dirait qu'on voit ces affaires-là, puis notre cerveau part en vrille.
Ben écoute, des fois, la réalité dépasse la fiction.
Absolument. Du côté du Palais de justice de Québec, c'était les observations sur la peine aujourd'hui dans le dossier de Jason Potier-Martin. Lui avait été reconnu coupable au terme d'un procès d'avoir carrément brûlé une fillette. Lui, ce qu'il avait fait en août 2022, il avait lancé 2 cocktails Molotov par la fenêtre d'un appartement. C'est tombé dans la chambre d'enfant. En fait, c'est une petite fille puis un petit garçon qui partageaient cette chambre-là. Le cocktail Molotov qui est tombé sur le lit de la fillette qui a pris feu. Des brûlures importantes, entre autres un pied. Puis on avait eu des images dans les médias qui avaient été partagées au moment du procès. Donc, ce qui, lui, a été reconnu coupable au mois d'avril. Puis il y avait les proches de la fillette, dont, bien sûr, l'identité n'est pas publique, là, qui ont parlé des conséquences de ces événements-là. Dont, entre autres, elle, vu qu'elle avait été grièvement brûlée, a dû subir des greffes de peau, a dû réapprendre à marcher, le sentiment de sécurité qui a été perdu par ces deux enfants-là. Le beau-père, qui est celui qui, quand il a entendu la détonation, est allé sauver la fillette dont le pyjama était en feu. C'est des images de cauchemar qu'aucune famille ne devrait vivre. C'est vraiment traumatisant. Puis lui, il dit, moi, j'ai de la misère à dormir. Je ne peux plus dormir sur un rez-de-chaussée. Je ne peux pas dormir proche d'une fenêtre. Je fais des cauchemars. Je repense à cette nuit-là. Donc, du côté... Puis en passant, c'est pas eux qui étaient visés. Là. C'est une... On ne sait même pas qui était visé. C'est ça le pire. Puis, tu sais, lui, il a quand même pas mal d'antécédents judiciaires, là, Jason Potier-Martin. Puis, il avait essayé de se défendre en disant que c'était pas lui. On avait des images de lui qui a lâché les 2 bouteilles de vitre de limonade.
Mais non, c'est un méchant cabochon, là, on va se le dire. Mais là, étant donné qu'on ne sait pas qui était visé, est-ce qu'on peut suspecter qu'il n'y avait personne de visé aussi, puis c'était juste un délai, puis un random?
Peut-être que j'ai aucune espèce d'idée.
Hey, parce que, tu sais, en plus, déjà, c'est grave, mais si en plus, c'est ça. Je vais arrêter cette phrase-là maintenant.
Donc, du côté de la Couronne, on a demandé une peine de 11 ans de pénitencier. Du côté de la Défense, on suggère une peine de 6 ans. Fait que lui, il est en détention provisoire. Fait que ça ferait que sa peine serait pratiquement terminée. Le juge qui prend ça en délibéré et prononcera sa sentence au mois d'août. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres? Ah, je veux terminer avec ça. Avez-vous vu les images du couple qui s'est ramassé au top de l'Empire State Building, oui, justement pour, oui, leur fiançailles? Il y a un documentaire sur eux qui est disponible sur Netflix, Skywalker's A Love Story, qui suit les deux protagonistes. Là. C'est Angela Nicolo et Ivan Birkus qui sont montés au top de l'Empire State Building, ce qui est quand même assez haut. Là. C'est un 443 mètres quand tu grimpes jusqu'à l'échelle. Puis, ils avaient accroché une banderole sur laquelle on pouvait lire « Quand le pouvoir de l'amour l'emporte sur l'amour du pouvoir, le monde connaît enfin la paix. » Ben romantique, ben cute. Mais les deux aujourd'hui se sont vus devant la cour se faire déposer des accusations de mise en danger d'autrui, de cambriolage et quelques autres chefs d'accusation, fait qu'ils devront comparaître éventuellement. On se doutait bien, là. Eux, c'est pas la première fois. C'est en fait, c'est pour ça qu'il y avait eu un documentaire sur eux. C'est qu'ils escaladent de manière totalement illégale des monuments, des immeubles, tout ce que vous voulez. Puis il a fallu qu'il y ait des agents qui montent pour aller les chercher. En fait, ils ont rencontré à mi-chemin. Les agents sont montés jusqu'à 381 mètres au-dessus du sol.
Quand même, hein?
Je sais pas si on va faire ça souvent comme type d'intervention, là, mais tu dois espérer qu'il se passe rien, ni pour eux autres, ni pour personne en haut. Fait que voilà, c'est pour ceux qui ont trouvé ça... Ils ont trouvé ça très romantique comme geste. Il y aura vraisemblablement des conséquences.
C'est une magnifique journée, mais très, très chaude qu'on a sur Québec. On a atteint 40 degrés. Là, ça fait déjà deux émissions sur trois que ça nous arrive. C'est-à-dire qu'on entre en onde à 14 heures avec vous et on gagne en temps ressenti depuis le début de l'émission. On a commencé le show à 38, là, on est rendu à 40. Il y a deux alertes météo quand même, donc veille jaune, orage violent et avertissement de chaleur accablante. C'est alternance entre soleil et nuages pour le début de la soirée avec un risque d'orage violent. Ça devrait se dégager au courant de la nuit. On parle d'un minimum de 20 degrés quand même, donc ça devrait légèrement... Ça s'alléger au courant de la nuit. Je dis ça. 20 degrés, c'est quand même chaud là, pour la nuit
c'est
aussi.
C'est chaud.
Là.
Disons que l'air ne circule pas beaucoup. Tu ouvres les fenêtres, tu mets des ventilateurs. Puis, hein.
C'est, ça va être comme ça encore là, dans les prochains jours parce que demain, on attend même chose aussi jusqu'à... je l'ai perdu de vue, mais jusqu'à 39 encore là avec le facteur Midex. Donc, copier-coller sur aujourd'hui des risques d'averses aussi, risques d'orages violents. Et par la suite, là, ça devrait se dégager tranquillement. 25 attendu pour samedi, alternance entre soleil et nuages. Vraiment une séquence de beau temps là, pour dimanche, lundi, entre 26 et 29 degrés attendu sur Québec. On a de magnifiques concours. Pour savoir, oui, c'est quoi les concours, vous avez deux options. Soit vous écoutez Boulevard 102.1, puis nous, ben, on s'occupe de vous en parler. Ça fait partie de notre job aussi. Ou sinon, vous allez faire un tour par vous-même sur le blvd.fm dans la section concours. Puis tant qu'à être déjà là, ben, vous pouvez utiliser aussi la web radio pour nous écouter en direct. Et un de ces concours-là, Véro, en ce moment, c'est...
Avec la cour arrière de Québec qui est située dans le secteur du Grand Marché. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, mais on a fait une magnifique terrasse. On a installé des bassins. Puis je veux faire du pouce sur le fait que tu parlais de la météo parce que nous, on vous gâte. On veut vous envoyer 5 à 7 là-bas avec votre gang d'amis au Grand Marché de Québec. Donc, un verre à la main, les pieds dans l'eau si ça vous tente pour retrouver tous les classiques. Les bassins, la musique live, l'ambiance festive, les événements thématiques, les cocktails, les bières de microbrasserie et plus encore. Fait que ce qu'on fait tirer aujourd'hui, c'est un 5 à 7 pour 4 personnes avec consommation. On va fonctionner par texto, 418-971-1021. Et vu que tu as parlé de la température, nous, on est choyés, on travaille à l'air climatisé, on n'a même pas l'impression qu'il fait chaud dehors. Aujourd'hui, vous travaillez dehors.
Ouais.
Vous suivez votre vie, vous, ouais, considérez que vous avez la pire job à faire quand on est en vague de chaleur. Proposez-moi votre job de boîte. Donnez-moi votre nom, votre prénom et votre nom sur notre texto, donc 418-971-1021. Et vous pourriez peut-être remporter ce fameux 5 à 7 pour 4 personnes. Fait que vous allez peut-être pouvoir gâter des collègues qui ont chaud avec vous autres.
Qui ont eu chaud aujourd'hui, qui vont avoir chaud dans les prochains jours aussi. Tu sais, comme Martin, par exemple, qui nous texte super smart de ta part, mais Martin n'est pas éligible. Pourquoi? Parce que Martin nous a texté. Moi, je vous salue en direct de la plage du camping Génévrier, les pieds dans l'eau.
Non, ça va être correct,
ça, c'est
Martin.
Cool, Martin. Merci, que tu sois à l'écoute, mais pas pour ce concours-là. On a déjà Jimmy qui vient de nous texter. Donc, ça nous prend aussi ce que vous faites. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme job? Est-ce que vous travaillez à l'extérieur? Est-ce que vous êtes sur des toitures aujourd'hui?
Je sais qu'on
parle souvent d'eux, c'est ça, toiture, asphalte, mais construction en général. même si vous travaillez dehors, là, genre quand le jour. Là,
facteur.
Facteur, c'est ça. Juste d'être à l'extérieur pendant toute une journée au complet. Signaleuse, Alice qui vient de nous écrire, effectivement, signaleuse, c'était une méchante journée quand même, les derniers jours aussi. Donc, on passe à vous très, très fort. Vous nous textez 971-1021. C'est le retour à Boulevard. C'est la formule estivale de votre show de fin de journée avec Véronique Bergeron, Antonin Iacarini et moi-même, Nathan Meilleur.